voudrais vous raconter l'histoire de l'identité, ou plutôt l'histoire d'un homme. Un homme aux multiples visages qui sait très bien qu'une personne n'est jamais qu'une somme de personnages. Capable de danser sur plusieurs scènes en même temps, sous le regard des autres qui eux aussi ne sont pas, mais ne cessent de devenir. Alors l'identité, ça lui pose un problème. L'identité, n'entend-on pas déjà la violence et la dureté? Identité, n'entend-on pas déjà cette fixité qui est négation du mouvement, de la complexité, de la vie même? Identité, n'entend-on pas déjà le staccato des mitraillettes? Il se souvient de son enfance. Il ne les a jamais vraiment compris, tous les garçons et les filles de son âge, qui savent si bien qui ils sont, où ils sont, tout à leur hâte, à leur fierté d'appartenir. Comment peut-on vivre comme ça? Se demandait-il avec un étonnement mêlé de jalousie. Être là où on est sans même l'avoir choisi et s'en trouver heureux, heureux et fier comme dans la chanson de Brassens, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Lui n'a jamais pu. Trop de choses en lui mêlées, trop de choses compliquées, trop d'intranquillité, trop d'illégitimité, trop de singularité. Difficile de trouver au milieu de tout ce bordel, ce noyau dur et insécable qui se nomme identité. Mais alors, comment l'appeler? Ce qui fait qu'il est quand même lui-même, qu'il est quand même un sujet, peut-être bien le sujet de sa propre vie. Comment l'appeler? Ce qui de lui demeure dans le tumulte d'une vie, cet axe autour duquel tout le reste tourne, si ce n'est son identité. Sa vérité de sujet, cet axe, Lacan propose de l'appeler désir. Et toi, quel est ton désir? Non pas tes désirs, non pas tous tes désirs, mais ton désir. Celui qu'il serait bon, salutaire, de ne pas trahir. Oui, toi, quel est ton désir? Ça a quand même plus de gueule que « et toi, tu fais quoi dans la vie ?» Alors voilà, l'identité, ça lui pose un problème. Mais la fidélité, il veut bien faire avec. La fidélité à son désir, à son étoile, à sa quête. Il ne sait pas trop qui il est, mais avec le temps, les rencontres et les projets, les amitiés et les amours, les aventures et les lectures, il commence à savoir un peu mieux celui qu'il aimerait devenir. Pour en parler ce matin, de l'identité et du désir, de la liberté et du destin, de ce que c'est que trouver sa voie, j'ai la joie de recevoir l'acteur et comédien, le lecteur et réalisateur Guillaume Gallienne, sociétaire de la Comédie Française, qui nous a rejoint ce matin sous le soleil de Platon pour nous aider à cheminer en compagnie de cette belle question. Et si l'identité n'était qu'une illusion?
Sous le soleil de Platon, Charles Pépin sur France Inter.
Bonjour Guillaume Gallienne.
Bonjour Charles.
Merci beaucoup d'être là.
Bah, merci de m'accueillir.
Bah, vous avez 4 heures.
Ok, d'accord. Alors, dégagez la problématique. Ouais. Oh mon Dieu.
Alors, non, je précise quand même, avant d'entrer dans le vif du sujet de l'identité, on va être là ensemble à se promener comme ça autour de ce qui pour moi est une énigme. On va convoquer Michel Serres et d'autres philosophes pour essayer de savoir ce que ça veut dire l'identité. Mais avant, je précise quand même, et c'est une manière de lancer le sujet, que vous avez une double actualité. Aujourd'hui sort Kaamelott au cinéma, oui. Et vous êtes aussi sur la scène de la Comédie Française, et vous jouez le maître de philosophie dans Le Bourgeois Gentilhomme. Probablement deux grands succès, en tout cas au théâtre c'est déjà consacré, et au cinéma ça s'annonce bien. Est-ce que c'est pas une belle façon finalement de vous poser cette question, à savoir si l'identité, vous serez probablement d'accord, n'est pas quelque chose de fixe, est-ce que néanmoins elle n'existe pas quand même, et si oui, où la trouver?
Pour moi c'est dans le chemin, c'est la route qui m'intéresse, mais il n'y a pas de finalité. Enfin, à part la mort, il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Mais donc c'est le chemin qui m'intéresse. Et le chemin, il est parfois chaotique, il est parfois harmonieux, doux, violent. Mais c'est ce qui fait qu'on se dessine. On dessine dans l'espace, on dessine dans le temps, et puis ça nous dessine. Mais je n'ai jamais eu l'ambition de laisser quoi que ce soit derrière moi, ou de j'ai toujours eu la chance de me sentir déjà inscrit. J'ai jamais eu cette ambition de m'inscrire. Donc c'est vraiment le chemin qui m'intéresse, et ce dessin là il est très éphémère, mais voilà, c'est ce qui reste des dessins qu'on a fait, qu'on a tracé, et qui nous ont dessiné nous-mêmes. Voilà.
Vous avez fait un jour un jeu de mots un peu lacanien, l'éphémère.
Ouais.
L'éphémère, donc
ouais.
C'est rapide, et puis c'est l'éphémère.
Ouais.
Je crois que dans ce chemin, vous êtes passé par pas mal d'étapes qu'on connaît, hein, notamment la psychanalyse, un travail avec une phoniatre, on dit.
Oui, absolument.
Pour trouver votre voix.
Oui.
Par rapport à ce chemin, il y a, on va dire, dans la tradition philosophique, deux grandes idées. La première, c'est celle de Sartre. Vous avez un peu parlé en sartrien en disant, voilà, on le dessine, on le redessine. Donc pour Sartre, au fond, à la base, on est une sorte de néant, et puis on va donc pouvoir s'inventer librement. Et puis de l'autre côté, on va dire, allez, Freud, on a beau avoir l'impression de faire des choix, de dessiner son chemin, in fine, le chemin qu'on dessine était quand même déterminé. Alors qu'est-ce qui vous parle le plus, Sartre ou Freud ?
Les deux, puisque étant donné que je me sens déjà inscrit, donc j'ai forcément un bagage. Après, vous avez parlé de psychanalyse, c'est vrai que j'en ai fait beaucoup et je continue parce que, au départ, pour vraiment, c'était une question de survie. Et, ouais. Et maintenant, c'est une, disons que c'est un travail qui me permet de faire les choses en conscience. C'est assez nouveau dans ma vie, donc c'est assez agréable aussi, même très agréable. C'est aussi parce que c'est pour moi un des rares espaces où la douleur n'est pas hiérarchisée. Un bon psy ne hiérarchise pas la douleur. C'est-à-dire que c'est souvent le patient qui le fait en disant « je devrais pas me plaindre » et tout. Et le psy dit « non, vous avez mal, c'est un bobo quoi ». Ça fait mal un bobo. Et il va pas vous dire, oh, ça va, c'est juste une égratignure, ne vous embêtez pas. Non. Donc, j'aime bien avoir cet espace où la douleur n'est pas hiérarchisée, on a le droit de se plaindre. Parce que moi, j'ai été élevé d'une manière où vraiment, on n'a pas le droit de se plaindre. Mais au-delà de ça, oui, c'est avoir conscience, faire les choses en conscience. Donc j'apprends à déposer un peu le bagage, à pas toujours me trimballer avec, pour pouvoir être plus affranchi, plus libre de créer le présent, d'être disponible au présent, de me laisser créer par le présent. Et ça prend énormément de temps.
Ouais. C'est pour ça que on peut être sur le divan des années, hein, sans que ce soit un problème. C'est assez beau ce que vous avez dit sur ne pas hiérarchiser la douleur ou la souffrance. Ça m'amène à une question sur aussi ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un peu la guerre entre la psychanalyse dont vous parlez et puis des thérapies plus brèves, plus comportementales,
oui.
Où on essaye de se reprogrammer un peu plus rapidement pour la vie efficace, on pourrait dire, mais qui ont aussi leurs vertus.
Oui.
Mais justement, si on voit qu'un thérapeute comme ça, il va plutôt avoir vous invitez à relativiser votre douleur au lieu d'en entendre, au fond, la légitimité.
Ah, je ne sais pas. C'est des méthodes, en effet, différentes, mais disons que les méthodes rapides sont vraiment liées à des traumatismes. À des traumas qui sont très déjà nommés,
oui, voilà.
Très localisables. Moi, les miens, j'ai beau les nommer. Il faut quand même que je bosse dessus. Donc, c'est vrai qu'il y a ce souci d'efficacité. Moi, je l'ai pas tellement. Le temps a toujours été un allié. Même si, en vieillissant, comme Proust, je me dis, merde, si je me fais renverser par une voiture, si j'ai un accident, j'aurais laissé finalement que ça. Mais en fait, non, parce que c'est pas laisser que ça. Pour l'instant, j'adore ma vie. Enfin, je travaille bien.
Le temps vous a autorisé à, au fond, à vous accepter peut-être. Vous aviez un sentiment dont vous avez beaucoup parlé d'illégitimité, et vous avez raconté, ça m'a beaucoup touché, que celui qui vous avait beaucoup aidé avant le psychanalyste ou peut-être l'amour, c'était Proust.
Ouais.
Qu'est-ce qui vous a apporté dans cette acceptation de celui que vous étiez?
Il y a chez Proust la notion que tout être peut être une œuvre d'art. Et que ça n'est pas en regardant avec un microscope qu'on découvre les gens, mais plutôt avec un télescope. Les êtres sont en fait très loin. Et c'est avec un télescope qu'il faut les regarder, parce que ce sont des mondes entiers. Et j'ai je fonctionnais comme ça. Donc le fait de le voir écrit par quelqu'un d'autre, je me suis dit « Ah, mais donc... Ah, donc j'ai le droit, ça va, enfin, je suis pas seul. »
J'ai le droit d'être un monde entier et aussi peut-être de considérer les autres comme ça.
Ben, c'est surtout ça. Hein. Moi-même, je m'incluais pas forcément dans le truc. Mais au moins de me dire, mais donc, oui, j'ai le droit de fonctionner comme ça avec les autres, j'ai le droit de les considérer comme un monde. Et après, il y a toute la question du moi social et du moi réel et tout ça que pose Proust et que je trouve passionnante. Et puis finalement, un abandon à la subjectivité qui me plaît aussi. J'aime bien l'aveu finalement de dire mais tout ça est subjectif, bien sûr.
Alors quand vous lisez Proust, que vous lui donnez votre voix, vous avez plutôt l'impression, donc vous avez fait une lecture, vous avez lu la fin de la recherche il y a pas longtemps à la Comédie Française, un moment très émouvant. D'ailleurs, on a senti que vous étiez rattrapé par une émotion.
Oui.
Est-ce que cette émotion, c'est de finalement de ne plus être soi en donnant sa voix à un autre, ou c'est d'être soi plus que jamais?
Ah non, c'est l'écho en moi qui m'émeut. C'est un moment de fraternité. Tout d'un coup, vous avez un frère. On est du même moule d'un coup. Quand vous plongez dans une œuvre et que ça vous émeut comme ça, c'est-à-dire que vous avez aucun problème, vous n'avez aucun mal à l'incarner puisque la résonance du texte est totale en vous. Donc c'est incarné et c'est un moment de fraternité.
Mais je vous propose justement d'écouter cette résonance.
Tant d'années. Je venais de comprendre pourquoi le duc de Guermantes, dont j'avais admiré en le regardant assis sur une chaise, combien il avait peu vieilli, bien qu'il eût tellement plus d'années que moi au-dessous de lui, dès qu'il s'était levé et avait voulu se tenir debout, avait vacillé sur des jambes flageolantes comme celles de ces vieux archevêques sur lesquels il n'y a de solide que leur croix métallique et vers lesquels s'empressent les jeunes séminaristes. Il ne s'était avancé qu'en tremblant comme une feuille sur le sommet peu praticable de 83 années, comme si les hommes étaient juchés sur de vivantes échasses grandissant sans cesse, parfois plus hautes que des clochers, finissant par leur rendre la marche difficile et périlleuse, et d'où tout d'un coup ils tombent. Je m'effrayais que les miennes fussent déjà si hautes sous mes pas. Il ne me semblait pas que j'aurais encore la force de maintenir longtemps attaché à moi ce passé qui descendait déjà si loin et que je portais si douloureusement en moi. Si du moins elle m'était laissé assez de temps pour accomplir mon œuvre, je ne manquerai pas de la marquer au sceau de ce temps dont l'idée s'imposait à moi avec tant de force aujourd'hui. Et j'y décrirai les hommes. Cela dut-il les faire ressembler à des êtres monstrueux, comme occupant dans le temps une place autrement considérable que celle si restreinte que l'air est réservé dans l'espace, une place, au contraire, prolongée sans mesure, puisqu'ils touchent simultanément comme des géants, plongés dans les années à des époques vécues par eux si distantes, entre lesquelles tant de jours sont venus se placer dans le temps.
C'est magnifique. Et on sent votre émotion maintenant, évidemment, et puis aussi quand vous l'avez lu. Et ça prouve aussi qu'on ne lit bien qu'avec son histoire à soi. Il y a cette idée qu'il faut assez de temps pour accomplir son œuvre. Parfois, vous avez l'impression d'en manquer ou que des gens que vous avez aimés en ont manqué?
Ah ben ça, c'est évident. Moi, j'ai été affranchi par la mort de ma cousine. C'est ma cousine qui est morte quand j'avais 18 ans et c'est elle. C'est le jour de sa mort que j'ai décidé de faire du théâtre. De me dire mais mon Dieu, on n'a qu'une vie. Mais alors si on n'a qu'une vie, moi je veux faire du théâtre, moi je veux... Ah non, moi je veux... décloisonner tout. C'est elle qui m'a permis de décloisonner, et puis aussi qui m'a fait découvrir les auteurs, qui m'a fait aimer les auteurs. Non, là, ce qui me bouleverse dans ce texte, c'est le sacrifice presque de ce bonhomme qui a mis vraiment le peu de force qui lui restait, le peu qu'il avait, mais il a tout mis dans son œuvre. Quel don de soi Quelle urgence, quelle fièvre on sent. Je trouve ça bouleversant. Vraiment, c'est un don extraordinaire. Il n'y a pas de nombrilisme, il n'y a pas toutes ces fausses questions qu'on essaye d'imposer à l'artiste. Non, c'est bien au-delà. Enfin, c'est bien plus simple, en fait. Bien plus intime. Et en même temps, humain.
On va écouter America pour essayer de méditer à cette espèce d'urgence qui fait que, parfois, le temps d'une vie, c'est le temps aussi pour se rapprocher de sa singularité avant qu'il ne soit trop tard. America et justement A Horse With No Name. C'était America, A Horse With No Name.
Sous le soleil de Platon. Charles Pépin, sur France Inter.
Nous sommes toujours avec Guillaume Gallienne, sous le soleil de Platon, et je viens de réaliser une erreur d'interprétation et que j'ai commise tout à l'heure, et j'ai réalisé ça, j'en ai pris conscience, quand je vous ai entendu lire Proust. Parce que moi, je me disais qu'en fait, votre émotion, très forte, était liée à à la place de Proust dans votre itinéraire personnel. Et j'avais imaginé quelques réminiscences du moment où peut-être vous aviez lu Proust à 14 ans, ou peut-être Proust vous avait aidé à accepter votre d'être par exemple un gosse de riche, d'être un privilégié, d'avoir le droit de souffrir quand même. Mais en fait, je comprends mon erreur. C'est qu'en fait, c'est juste la beauté du texte en fait qui vous arrache des larmes. C'est juste que c'est trop beau, mais quelque part, sans parler de vous, parce que ça parle de tout le monde en fait.
Ah oui, vraiment. C'est des valeurs qui vont au-delà de la petite histoire de j'adore Proust, mais je suis pas un dingue du moindre détail de sa vie, ça ne m'intéresse pas tellement. Après oui, c'est vrai qu'en lisant là, quand je l'ai découvert très tard parce que j'avais lu vaguement en Hippocane, je m'étais ennuyé ferme, enfin bon. Et puis c'est en l'enregistrant, en fait c'est Adeline Defaite des éditions Télème qui m'a demandé d'enregistrer à haute voix la deuxième partie de Guermantes et Sodome et Gomorre, et donc j'ai découvert le texte en direct et à voix haute. Donc ça s'est tout de suite fait avec mon souffle, avec mon battement de cœur, ça a tout de suite été incarné finalement. Et alors oui, je me suis rendu compte que ça me faisait du bien de savoir que, enfin, je les connaissais par cœur, ces personnages-là, et je savais comment ils parlaient. Enfin oui, j'ai grandi avec. Mais au-delà du côté social, au-delà du côté inverti, pas inverti, de tous ces trucs-là, non, c'est vraiment, comme vous dites, la beauté du texte. C'est la force, c'est l'honneur, un peu comme parle Peggy aussi sur ses ouvriers ne servaient pas, ils travaillaient, ils avaient un honneur absolu, comme c'est le propre de l'honneur.
Une dignité, peut-être, un mot de fraternité tout à l'heure aussi.
De fraternité, mais avec un sens du devoir, un sens de l'effort, que je trouve très important. Et puis un cadre qui a l'air comme ça très clair et qui en fait est d'une fluidité, d'une mouvance, d'une élasticité dingue.
C'est ça le style en fait.
Bah le sien oui, en tout cas oui.
Alors du coup, par rapport à la question que je vous posais tout à l'heure, j'ai l'impression qu'on a une réponse. Je vous demandais si finalement, comme ça, lire un autre, lire Proust, lire Hugo, jouer un autre, jouer un personnage, être acteur, être comédien, est-ce que c'est une manière de finalement se rapprocher de soi ou de s'en éloigner, de s'abandonner dans la grâce finalement d'être un autre ? Quand je vous entends, j'ai l'impression que c'est plutôt la deuxième partie de la réponse au fond.
Non, ce sont les deux. C'est parce que vous plongez entre guillemets dans l'œuvre de l'autre que il y a un écho avec votre humanité. Ce sont des vases communicantes.
Quand vous lisez, vous plongez.
Ah oui, il y a que ça qui m'intéresse. Mais en général, dans la vie, pour tout, en scène, au cinéma. Ah oui.
Ça veut dire qu'en finalement, en plongeant, en s'abandonnant, c'est là qu'on se retrouve.
Ah moi oui, parce que sinon quand je ne plonge pas, quand je suis, j'assure comme je peux, mais les moyens sont faibles. Alors qu'avec les auteurs, que ce soit des auteurs au cinéma ou des auteurs au théâtre ou en lisant, là, les moyens, ils sont en général bien meilleurs.
Ça me rappelle la fin du film Cézanne et moi, de Daniel Thompson, dans lequel, très beau film, vous jouez Cézanne.
Oui.
Et à la fin du film, si mes souvenirs sont bons, vous êtes Cézanne vieux.
Oui.
Et vous peignez.
Oui.
Et là, je trouve qu'il y a un moment de grâce.
C'est drôle que vous l'ayez repéré parce que c'est le moment de grâce que j'ai vécu sur ce film. C'est ce moment où je peins, où j'ai eu un moment de... Où je dis, ben voilà, j'ai déposé ce qu'il y avait à déposer. C'est bon.
Et donc, ça me fait penser ce moment de grâce dans lequel vous n'êtes... dans le même mouvement. Vous n'êtes plus vous du tout, puisque vous êtes Cézanne. Mais c'est l'occasion de trouver en vous quelque chose de vous-même. Ça me fait penser à ce très beau vers de René Char, que je vais citer de tête, hein, pardonnez-moi. Je suis sûr que vous le connaissez. Oui. Quand René Char dit, si tu n'as pas, mais c'est pas le terme exact, hein, l'audace de t'établir à l'extérieur de toi-même. Déjà, la phrase est géniale. C'est pas de sortir de soi. C'est de s'établir à l'extérieur de soi-même, dans la proximité des larmes et dans l'orbite des famines. Tu n'as aucune chance de devenir un jour toi-même.
Ouais, moi ce genre d'injonction me tétanise, mais
c'est pas une injonction. Bah, dans la phrase exacte, c'est pas une injonction.
Ah bon. Je trouve, enfin, je sais pas comment réagir à ce genre de truc parce que j'ai toujours l'impression que c'est hyper culpabilisant. J'entends moi quelque chose
pour les gens.
Bah enfin. Ouais, celui qui entend ça, je me dis oh là là. Alors je suis obligé de me taper les larmes, les famines, les machins. Je suis obligé d'être concerné partout. Oh non, je peux pas être concerné partout. Je verrai bien.
Ouais. Alors je précise parce que je pense que en fait ce qui est important c'est plutôt le début. C'est pas, en fait, quand il dit dans l'orbite des famines, c'est pas au sens social ou humanitaire. C'est au sens de prendre le risque de manquer de tout. De risquer de n'être plus soi. Ouais. Et donc, ce qui est important, c'est plutôt le début, c'est s'établir à l'extérieur de soi, ce qui me semble être une définition d'un rôle, par exemple.
Oui, mais un rôle, c'est un tissage, c'est un maillage de tellement de choses entre votre imaginaire, bon, évidemment, le texte, le metteur en scène, le partenaire, le moment, ici et maintenant, ce qui se passe avec le public, avec, c'est un maillage de beaucoup de choses, c'est du travail. Mmh. Et c'est du travail de, en gros, de disponibilité, de pensée, d'accordage.
Ouais.
Et de disponibilité.
Alors justement, tous ces mots, oui, que vous venez de prononcer, tissage, oui, maillage, oui, travail, relèvent du champ lexical avec lequel justement Michel Serres, oui, nous aide à penser une identité qui n'est pas fixe, qui n'est pas un noyau insécable, mais qui est justement pluriel. Écoutons Michel Serres.
Qu'est-ce que ça veut dire la carte d'identité? Qu'y a-t-il sur votre carte d'identité? Eh bien, sur votre carte d'identité, il y a d'abord votre nom, en effet. Est-ce que votre nom est votre identité? Est-ce que vraiment, lorsque je dis « je m'appelle Serres », je décline mon identité? Pas du tout. Pas du tout. Au contraire, je fais voir que j'appartiens à un sous-ensemble de l'humanité qui porte ce nom-là, qui est un nom parfaitement commun, qui parfaitement ordinaire et porté par des gens qui généralement habitent des pays de montagne. Sierra, c'est la montagne. Donc beaucoup de gens portent ce nom. Et d'ailleurs, que vous appeliez Martin, que vous appeliez Chang, ou que vous appeliez Gonzalez, ce n'est pas vraiment votre identité, puisqu'énormément de gens portent ce nom en Chine, en Occident, ou dans les pays de langue espagnole. Et par conséquent, ce n'est pas une identité, c'est une appartenance. D'une certaine manière, ce « je », ce « moi », ce « je m'appelle Michel Serres » ne désigne pas là un « je », un « ego », un « moi », mais un « nous ». Nous, les Serres, nous, les Michel, nous, ceux qui sont nés en Gascogne, nous, ceux qui sont nés au milieu du siècle dernier, et ainsi de suite. Et alors, qui êtes-vous ou qui suis-je? Et la réponse à cette question est toute simple et elle est fondamentale. « Je suis moi-même ». Vous êtes vous-même. Et en cela, je décline bien mon identité.
je vous ai vu beaucoup rire et sourire, c'est plutôt.
Oui. Ben déjà, pour un lacanien, je suis moi-même. Bon, c'est très bien. Il part vraiment du très bon pied. Déjà, il s'aime. C'est important.
Ouais. Et pour un lacanien,
j'ai
il y a
très,
aussi.
Très tard.
Il y a aussi le genou. Pour et, ah bah, genou. Ah bah, ça, je oui. suis un nous.
Ah bah, ça,
donc
oui.
si j'ai mal au genou, je sais ce qui
ah
se
oui,
passe.
Oui, oui, ça. Bon, Emmanuel Mercola a très bien ouais. raconté ça. Ben, j'aime beaucoup l'idée de dire qui êtes-vous, je suis moi-même. Ça a l'air arrogant alors que non. C'est un boulot de dingue. mais c'est, ça me plaît bien.
Alors dans ce que dit Michel,
surtout, et vous êtes vous-même. Ça aussi, c'est très important. C'est là où on rejoint Proust.
Ça me fait penser à ce que dit Michel Serres quand il dit nous appartenons à plusieurs groupes, à des souvenirs de géométrie dans l'espace, je crois, quand on est au lycée ou au collège. Vous savez, il y a des ensembles, des ronds, puis ils se croisent, et à l'intersection de tous les croisements, il y a une zone assurée.
Oui.
Peut-être que l'identité, c'est ça. C'est pas quelque chose qui est déterminé pour toujours, mais c'est... Il y a plein de cercles, mouvements, de groupes, d'appartenance. Par exemple, vous appartenez à la troupe de la Comédie Française,
ah,
et
oui.
puis à d'autres troupes. Et peut-être que, si on écoute ce que dit Michel Serres, c'est beaucoup plus doux, c'est beaucoup plus souple. Parce que si on appartient à plusieurs groupes, bah déjà, ils se font la guerre pour nous tyranniser. Et quelque part, cette guerre entre tous ceux qui veulent nous définir, nous libère.
Ah oui, ça c'est très important. Et alors moi, c'est drôle parce que inconsciemment, je l'ai compris très jeune et j'ai toujours eu plusieurs patrons. J'ai toujours eu plusieurs appartenances pour ne pas trop dépendre d'une seule.
Lesquelles, par exemple ?
Bah, notamment évidemment la Comédie Française, c'est mon socle. Ma grand-mère me disait toujours, on renie rien, on usurpe rien et on ne se justifie jamais. Bon, alors c'est compliqué parce que ne rien renier, ça veut dire se trimballer avec pas mal de choses, mais pourquoi pas. On usurpe rien, donc il y a des trucs, ok, ça on n'y est pas, ben on n'y est pas, très bien. Mais donc entre
on ne se justifie jamais, c'est un peu dur.
C'est surtout c'est que ça sert pas à grand chose hein.
De se justifier.
Ouais, ça sert pas à grand chose. Je me rends compte avec le temps, ça sert vraiment pas à grand chose parce que si on s'est obligé de justifier, ça veut dire qu'il y a un jugement. Or c'est pas en se justifiant qu'on va changer le jugement, pas vraiment.
Mais il y a peut-être les actions, pas se justifier par un discours. Mais peut-être par ce qu'on fait, quoi. Ce qu'on fait est une manière de dire, voilà, j'existe, je présente cela aux yeux des autres, je le présente au monde.
Ah oui, moi je suis plus sur la proposition que la justification. Oui. Je propose, après les gens disposent comme ils veulent. Je propose, c'est une lecture.
Ouais, c'est...
Mais donc voilà, donc c'est vrai que je me suis toujours dit, il faut que j'ai plusieurs patrons, c'est pour ça que j'avais et la Comédie Française et France Inter et le cinéma et pour surtout ne pas dépendre que d'un truc. Ouais.
Notre échange me fait penser à la chanson Ton héritage de Benjamin Biolay, très belle chanson.
Très belle chanson.
Où à un moment, donc il parle à son enfant et il dit, bah c'est comme ça en fait, tu peux rien, c'est dans ton sang, ouais. Il faudra faire avec, ouais. Ou plutôt sans.
Ouais. Bah oui.
Votre grand-mère n'aurait pas été d'accord. Elle voulait que vous fassiez avec.
Oui, ça c'est évident. Mais elle était pas hostile à ce que la voix, trouver sa voix, m'emmène ailleurs.
Ouais, ouais.
Mais ne pas renier, en tout cas, d'où je pars. Après, le chemin, vas-y, c'est le tien. Non, elle n'était pas hostile à ça du tout. Elle demandait juste à ce que ce soit intéressant.
Vous pensez que seuls les grands héritiers, au sens, pas au sens social ou financier, mais au sens de ceux qui savent de quel passé ils sont l'enfant, peuvent être des grands fondateurs ?
Non, heureusement, n'importe qui peut... Non, un grand fondateur, je ne sais pas qui il est, en tout cas, je sais que moi, je n'en suis pas un. J'en reconnais parfois dans la vie, je vois des fondateurs. Des...
Pensez à qui ?
Je pense à Eric Ruff, par exemple. C'est quelqu'un, c'est un fondateur, c'est un maçon, c'est un charpentier, c'est un obsédé du sens. Mais c'est une exigence et un moteur que je n'ai absolument pas. Je suis trop frivole. Moi, ce sont les textes des autres. Moi, je suis incapable d'écrire moi.
On va écouter Bonnie Banane, Cha Cha Cha, avant de parler de ce maître de philosophie que vous jouez actuellement sur la scène du Français.
D'accord.
Appelle-toi, appelle-toi. Quand je dansais le cha cha cha. Quand je dansais le cha cha cha. Quand je dansais le cha cha cha. Lorsque je bouge mon corps, je le fais à mon insu. À force de faire des efforts, je suis essoufflé et je sue. Ça n'est qu'une simple démonstration. Je te prends à l'essai, histoire de capter ton attention. Au lieu que tu t'énerves pas. Boum boum patatra. Mais t'es plus fort que ça. Tu retombes sur tes pattes comme un chat. Chapeau pas, tcha tcha tcha. Approche-toi, tcha tcha tcha. Fais comme moi, tcha tcha tcha. Un, deux, trois, tcha tcha tcha.
De Platon.
Prends ton masque! Cette fois, ça ne prend pas ton masque. Tu es démasqué, prends ton masque. Donne-moi ton masque! Et donne-moi ton masque! Hé! Hey, mais il y a
Charles Pépin sur France Inter.
Nous sommes toujours avec Guillaume Gallienne sous le soleil de Platon, qui n'a pas reconnu Louis de Funès.
J'ai l'impression. Si, j'ai reconnu Louis de Funès, mais je ne sais pas dans quel film.
Dans Fantomas, c'est
ah bah
ça.
Oui, dans ton masque et tout, Fantomas, bien sûr.
Okay. Ouais, alors on va s'épargner le passage sur le masque. Je le dis quand même pour les auditeurs, parce que le masque en grec, persona, enfin, c'est le masque de théâtre et c'est ce qui a donné le mot personne, persona. Oui. Donc on joue à être et puis on devient quelqu'un. Mais comme le retourne, je voudrais qu'on avance un peu et qu'on aille sur la scène de la Comédie Française où vous jouez le maître de philosophie, un maître de philosophie, donc dans Le Bourgeois Gentilhomme, qui finira quand même en plante verte.
Ah oui, non, mais ça c'est autre chose, ça c'est dans la Turquerie, mais c'est pas le maître de philosophie. Non, non, là c'est, non. La mise en scène de Valérie Le Sor et de Christian Heck est très très foisonnante et euphorisante. Elle répond absolument aux besoins des gens aujourd'hui et c'est merveilleux, d'où le triomphe aussi. Le triomphe repose beaucoup aussi, sur Christian Heck qui joue Jourdain et qui est merveilleux et sur la troupe qui est vraiment, voilà. Et les musiciens, enfin voilà, il y a une proposition qui est tellement bien travaillée et qui est enivrante et jouissive.
Vous diriez que l'esthétique est quoi, gothique, non, néo-gothique?
L'esthétique est surtout balkanique.
Ouais, c'est ça.
C'est
un déplacement intéressant.
Oui, c'est un déplacement intéressant. Et moi, je suis entre une espèce de Nosferatu étrange. On dirait un iguane, un peu, mon personnage, mais bon.
Oreste, il faut que je vous fasse une confidence. Je suis amoureux d'une personne de grande qualité. Et je souhaiterais que vous m'aidassiez.
Oh!
À lui écrire quelque chose dans un petit billet que je veux laisser tomber à ses pieds.
Fort bien.
Cela sera galant.
Oui. Oh, sans doute, oui. Sont-ce des vers que vous lui voulez écrire?
Non, non, pas de vers.
Ah, vous ne voulez que de la prose?
Non, 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 je ne veux ni prose ni vers.
Il faut bien que ce soit l'un ou l'autre.
Et pourquoi?
Par la raison, monsieur, qu'il n'y a pour s'exprimer que la prose ou les vers.
Il n'y a que la prose ou les vers?
Non, monsieur, tout ce qui n'est point prose est vers, et tout ce qui n'est point vers est prose.
Et comme l'on parle, qu'est-ce donc que cela?
De la prose.
Quoi?
Hein?
Quand je dis « Nicole, apportez-moi mes pantoufles et me donnez mon bonnet de nuit !» C'est de la prose?
Oui, monsieur.
Mais par ma foi, Il y a plus de 40 ans que je dis de la prose sans que j'en suce rien.
Vous êtes trop marrant quand vous écoutez ça, vous rejouez tout le temps en fait. Je vous vois là.
Ah oui, mais parce que parler, bah oui, ouais. Ouais. J'ai le texte qui. Ouais.
Les gens ont l'air morts de rire.
Ah mais c'est merveilleux, mais la scène est extraordinaire. Les gens sortent du théâtre en disant mais vous avez changé le texte. Je dis bah non. Ils hallucinent qu'un homme ait pu écrire ça il y a plus de 350 ans. C'est d'une modernité mais vraiment incroyable. Et il a ce passage, ce maître de philosophie que j'aime beaucoup, lorsque Jourdain lui dit, parce qu'il passe son temps à dire, mais que voulez-vous apprendre? L'idée, le verbe apprendre revient tout le temps. Et finalement, il dit, apprenez-moi l'orthographe. Il dit, oh, très volontiers. Et il dit, pour bien suivre votre pensée et traiter cette matière en philosophe, il faut commencer, selon l'ordre des choses, par une exacte connaissance de la nature des lettres. Et de la différente manière de les prononcer toutes. Et je trouve ça génial, la connaissance. Il parle bien, hein. C'est un très bon pédagogue.
Mais finalement, il enseigne surtout les voyelles.
Mais oui, mais il le fait hyper bien. Je trouve ça beau qu'il le fasse bien, que ce soit un très bon pédagogue et qu'il méprise jamais son élève.
Ouais, mais ça revient à dire que ces voyelles sont les voyelles de la vie elle-même?
Je crois que chez Molière, c'était quand même de l'amusement, mais disons que on peut apprendre même le béaba, on peut continuer à l'apprendre. C'est pas forcément tout le temps perché. Hein.
Mais dans les voyelles, il y a de la voix, c'est ça. Alors que dans les consonnes, il y a de la connerie.
Non, mais là, il enseigne les deux, hein, parce qu'à un moment, il enseigne le D, le F et le R. Mais c'est merveilleusement bien écrit, parce que justement, pour le D, il emploie que des dentales, pour le R, que des roulades. Enfin bon, c'est très bien fait, quoi.
Quand on vous écoute comme ça, aimer cette façon de parler, cette diction, cette précision. Ça me fait penser à quelque chose que vous avez dit qui m'a beaucoup touché.
C'est un défaut chez moi.
Justement,
ouais.
Vous avez raconté que vous avez dû apprendre à devenir imprécis.
Oui.
C'est-à-dire à vous libérer de ce rapport de la précision à la préciosité. Peut-être pour faire plus...
Prévisibilité aussi, oui. Oui, oui, c'est précis, prévisible, précieux. Oui, oui. J'ai dû travailler. C'était François Florent qui m'avait dit ça. Je dis mais on me fait tout le temps un compliment comme quoi je suis précis. Ça m'effraie. Il me dit t'as entièrement raison. Je dis pourquoi? Il me dit parce que dans précis, il y a précieux, il y a prévisible. Il faut que tu travailles le im qui doivent précéder ton jeu. L'imprécis, l'improbable, l'imparfait.
Mais en restant juste quand même. C'est-à-dire juste mais pas précis.
Mais je le suis encore trop. Hein. Je le suis encore trop. Mais bon, je travaille.
Vous voulez dire trop, ça veut dire que c'est une manière, enfin ça gêne la présence, c'est ça? Ça gêne la manifestation de la présence, d'être trop...
Pas de la présence, non, ça j'ai jamais eu de problème avec la présence, ça gêne le présent.
Ouais.
La virtuosité devient un calque, devient une forme, devient ça fait un écran.
Mais il faut en passer par là, non?
Non, pas forcément.
Vous pensez
non,
qu'on
non.
peut arriver
non,
à
non, aujourd'hui,
cette...
je vois les jeunes, là, dans la troupe, ils sont beaucoup plus organiques. Beaucoup plus organiques. Il n'y a pas ce côté, dans la famille, c'est comme ça que ça se joue. Non, pas du tout. Moi, étant donné que j'aime faire le lien entre l'héritage et le présent, forcément, je me trimballe avec. Oui, bon, mais cette scène-là, quand même, c'est comme ça. Enfin, même si j'essaye de m'en défaire, j'ai un petit bout de mon cerveau qui dit bon, enfin là, quand même, c'est écrit comme ça, non? Ben non, faut se laisser surprendre.
Alors justement, à propos de surprise, ça pourrait en surprendre certains, vous êtes en même temps sur la scène de la Comédie Française et dans Kaamelott, qui sort aujourd'hui même sur les écrans, et où vous jouez cette fois non pas un maître de philosophie, mais un chasseur de primes.
Oui.
Est-ce que finalement c'est tant que ça un grand écart, ou est-ce que finalement il n'y a pas quelque chose de commun dans cet humour à la fois très populaire et qui finalement touche les gens avec précision?
Astier, il a un humour vraiment très particulier que j'adore, il est brillant, il a l'humour du quotidien, du banal, du petit, au milieu de l'épopée, au milieu de l'épique.
Oui.
Donc en effet, c'est un héros, Arthur, la grande saga, l'épopée du roi Arthur qui dit, oh non là, pff, qui se découragent, qui... Il y a du domestique d'ailleurs dans au milieu de tout ça. Vous reprendrez bien un peu de raisin. Enfin,
et chez Molière aussi.
Et voilà. Et c'est le pont qui pourrait y avoir. Sauf que Molière va dans la comédie de mœurs, dans au sein de la maison de Monsieur Jourdain ou de celle de Monsieur Harpagon ou de celle de Monsieur Argan. Ou de... Il va au milieu du quotidien, il va aller chercher quelque chose de plus large, d'humanité, de fraternité, de résonance plus large. Astier fait l'inverse. Il prend le large et à l'intérieur de ça, il va aller chercher le petit et le domestique et le navrant. C'est son humour.
En tout cas, ça plaît beaucoup dans les deux cas. Il y a quelque chose d'un humour populaire, d'un humour quand même un peu décalé, cette espèce de petit pas de côté qui fait que soudain...
C'est un humour accessible, c'est un humour généreux. C'est un humour très généreux dans les deux cas.
Ouais.
Astier, là, il est généreux ne serait-ce que dans sa cinématographie. Le film est dingue là, en production. On a l'impression que c'est une super production américaine. Jean-Marie Drejou à la lumière a fait un truc dingue.
Ouais.
Et à l'intérieur de ça, il y a les catapultes, il y a la guerre, et au milieu, il y a l'autre qui dit oh, « j'ai un mal de crâne ». Voilà. Et là, avec le bourgeois au français, il y a la générosité de la troupe et les décors d'Éric Ruff ou les costumes de Vanessa Sonnino. C'est vrai que c'est tellement flamboyant.
Vous pensez qu'il y a beaucoup de monde qui sont dans les deux publics?
C'est très possible. Mmh. Oui, c'est très possible.
Ouais. Alors, Guillaume Gallienne, on connaît votre parcours. Donc, il y a eu beaucoup de choses très brillantes, beaucoup de succès. D'ailleurs, quand vous avez commencé dans le théâtre, le conservatoire, tout ça, puis Les Garçons et Guillaume à table. Mais j'aimerais vous poser une question que je pose souvent à mes invités. C'est dans ce parcours, jalonné de beaucoup de belles choses, et d'ailleurs de pas mal de grands écarts aussi, et de succès, est-ce qu'il n'y a pas un échec qui a été plus fondateur que les autres, qui a été particulièrement vertueux?
Mais, alors, les succès ou les échecs, ils sont associés dans ma tête, non pas à mon parcours ou à moi, ils sont associés à l'objet créé.
Ouais.
Donc, le succès des Garçons et Guillaume à table, il appartient aux Garçons et Guillaume à table. Voilà. Mais c'est pas le mien. J'en ai bénéficié. J'en bénéficie aujourd'hui, mais c'est franchement pas le mien.
Ouais, c'est intéressant. Vous ne vous identifiez pas à ce succès.
Pas du tout, du tout. Mais vraiment pas. Et donc l'échec, par exemple, de Marilyn. Et donc l'échec de Marilyn, c'est l'échec du film Marilyn. Mais c'est pas le mien.
Ouais.
Après, je peux voir mes erreurs. En général, je les vois bien avant qu'on me les montre. Je les ai déjà vus. Marilyn, je sais très bien, je les ai vus, les erreurs du film, je les ai vues au milieu du montage. Sauf que j'étais seul et que je me suis dit, bon, ben voilà, je suis seul et tant pis, je dois faire ce chemin-là, je pense que c'est l'autre route qu'il fallait prendre, mais je le savais.
Mmh.
Après, les un objet créé, il dépend pas seulement de votre volonté ou de la volonté des uns et des autres, il y a tout un contexte, il y a plein de choses qui vont avec. Les Garçons et Guillaume à table a énormément bénéficié du mariage pour tous, du contexte. Et donc, je ne me l'approprie pas du tout.
Ouais, c'est intéressant. Quand vous dites, d'ailleurs, c'est un conseil qu'on donne à celles et ceux qui ont connu un échec. C'est pas l'échec de ta personne, c'est l'échec de ton projet. Il faut dissocier,
oui.
Voilà.
Ah oui, j'ai pas du tout ce problème-là. Et d'ailleurs, lorsque des gens peuvent se dire quelle arrogance quand même, il est tellement prétentieux, je sais pas quoi.
Dans ce cas-là, je leur dirais que vous avez tenu absolument à faire la plante verte à la fin du Bourgeois Gentilhomme.
C'est vrai. Mais au-delà de ça, c'est pas le succès qui m'a rendu comme ça. Je l'ai toujours été à ce moment-là.
Ça me fait penser à ce que vous dites, cette non-identification à ses échecs comme à ses succès, au très célèbre poème de Kipling. Hein. Alors Kipling n'est pas un homme parfait par ailleurs, mais passons. Il dit voilà, tu seras un homme mon fils, c'est le if en anglais.
Oui.
Et notamment si tu sais prendre échec et succès, virgule, ces deux menteurs d'un même front.
Absolument.
Autrement dit, échec et succès nous mentent, si nous identifient à une essence. Mais si nous les prenons comme des indications pour continuer à avancer, pour devenir un geste existentialiste, alors ils sont de très bonnes choses. Et finalement, on sort d'une pensée dichotomique dans laquelle il y aurait d'un côté un grand succès, par exemple Les garçons et Guillaume à table, et puis de l'autre côté un échec comme Marilyn.
Ouais. Ah oui, non, j'ai pas du tout ce problème-là, heureusement, mon Dieu.
Est-ce que vous pouvez nous confier, avant que l'émission s'achève, peut-être votre dernière émotion esthétique très forte en tant que spectateur, en tant que lecteur?
Alors, en tant que spectateur, oui, je vais vous le dire, c'est un film de Christophe Honoré qui va sortir en septembre, que j'ai vu en projection d'équipe, qu'il a réalisé avec la troupe de la Comédie Française, avec la distribution de Guermantes, ce spectacle qu'il a créé autour du côté de Guermantes de Proust. Et au moment de l'interruption, au moment où tout s'est arrêté à cause du Covid, il a en 15 jours fait un long métrage merveilleux, d'une grâce folle, avec les acteurs de la troupe, autour de cette entreprise arrêtée, autour de lui aussi, c'est un film très personnel, autour de Proust, et ça a donné un tissage entre Proust, lui et la troupe, bouleversant, magnifique, et ça sort en septembre, et ça s'appelle Guermantes.
Merci beaucoup Guillaume Gallienne de nous avoir accompagnés ce matin sous le soleil de Platon. Je vais essayer de résumer pour nos auditeurs la philosophie de la vie qui a été la vôtre. D'ailleurs, j'aurais envie de dire une philosophie de la recherche, évidemment. Et c'est d'ailleurs ce que vous êtes en train de préparer, je crois, une série sur la recherche d'un perdu de Proust.
Oui.
Et justement, on a senti cette quête, on a senti cette honnêteté dans cette quête, on a senti cet amour, effectivement, de ce que nous avons appelé ensemble l'identité multiple. Avec Michel Serres, nous avons entendu que nous ne sommes pas comme ça fixés, épinglés, identifié. On a aimé la manière dont vous dites que vous ne vous identifiez ni à vos succès ni à vos échecs, manière de dire que vous existez vraiment, au sens sartrien. Hein. C'était ça, l'être et le néant. Le néant, ça ne veut pas dire qu'on n'est rien, ça veut dire qu'on peut s'inventer, se redessiner. Et tout ça, bien sûr, dans la fidélité à ce que vous avez dit, Guillaume Gallienne, votre grand-mère. Merci beaucoup. C'était vraiment un plaisir de vous écouter
Merci
et de faire ce voyage avec vous.
Merci.
Cette émission a été réalisée par François Audouin, avec à la technique Mathias Alléon, à la programmation musicale Valentine Chaudebois, aux illustrations sonores Romain Couturier. Elle a été très bien préparée par Estelle Gap et Aurore Juvenel. Quant à moi, je vous retrouve tous les matins à 10h précisément dans la caverne de France Inter, sous le soleil de Platon. À suivre, après le Flash Info, rendez-vous Place du Marché avec Aurélie Sfez. Bonjour Aurélie.
Bonjour Charles. Aujourd'hui, on est à Carpentras, dans le Vaucluse, et on va parler avec Famounette, qui est routière, mais aussi avec Katia et Gilberte à la synagogue, et de politique citoyenne avec Monsieur le maire.
Joli programme. Merci Aurélie.